Séquence pour comprendre et débattre proposée par Paul Masson et Radio PFM. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes habitant arrageois, hein, formateur d'adultes, membre d'Attaque et de Culture et Liberté. On poursuit notre série d'émissions sur le thème de l'éducation populaire. Alors, Paul, la semaine dernière, on a vu ensemble comment, au milieu du 19e siècle en France, une grande partie de la population s'est organisée pour sortir de la misère et puis d'une situation d'oppression et d'exploitation. Alors, cette organisation est passée par un certain nombre de combats, dont celui qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est celui, donc le combat pour une école pour tous.
Voilà, aujourd'hui on va regarder ce droit à l'instruction. Hein. On a vu jusque-là, en gros, l'éducation populaire jusqu'à 1872 n'est pas identifiée comme telle. C'était un idéal de société, le combat culturel de Condorcet. C'était une pratique et une école d'apprentissage. Donc, on a vu tout au cours du 19e siècle où les ouvriers progressivement apprennent. Mais jusque-là, ce n'est pas identifié comme éducation populaire. C'est identifié comme mutualiste, comme syndicalisme, comme coopération. Mais ce n'est pas identifié comme éducation populaire. Le premier combat identifié comme tel, ça va être en 1872, une pétition nationale qui s'appelle « Le sou contre l'ignorance ». L'idée, c'est de mettre un sou par personne pour faire en sorte qu'on réussisse à avoir le droit à l'instruction pour tous les enfants. C'était marqué dans les textes de Condorcet. On est en 1872 et il va y avoir une pétition qui va réussir à réunir 1 200 000 signatures. Cette pétition va permettre l'organisation progressivement d'un courant de l'éducation populaire, le grand courant, un grand courant qui a marqué toute l'histoire, le courant laïque, autour de la Ligue de l'enseignement. Son leader, c'était Jean Massé. Donc, 1872, cette pétition, et il faut attendre 1894 pour que une organisation nationale soit mise en place pour défendre ce type de droit. Depuis Condorcet, ça fait à peu près un siècle. Et la Ligue de l'enseignement continue d'exister. Ça fait plus d'un siècle qu'elle existe et elle va mener un certain nombre de combats. Elle va mener un combat d'abord pour faire en sorte qu'une loi passe au niveau de l'école, mais en même temps elle va organiser des patronages, elle va organiser des sociétés de protection laïque pour permettre à ce que les gens puissent bénéficier de ça sans être sous la coupe des églises. Puisque ce grand courant laïque disait « ce qui compte, c'est le développement de la raison. Et l'Église n'est pas, par son dogme, n'est pas favorable à la raison. En même temps, en termes de classe, ce courant laïque va être proche du mouvement ouvrier à un moment où l'Église était au contraire proche des intérêts de la bourgeoisie. Derrière le courant laïque religieux, à cette époque-là, en tout cas, c'est très net qu'il y a une confrontation aussi de classe sociale. Et on va avoir tout un mouvement fort qui va former des personnes, et on parlera des hussards de la République pour parler des instituteurs, qui étaient ceux qui étaient en première ligne, à la fois pour la formation des enfants dans l'école laïque, et à la fois pour la formation des adultes qui organisaient des cours du soir. C'est ce combat du premier mouvement d'éducation populaire, la Ligue de l'enseignement, qui permettra à ce que passe la première loi, les lois scolaires de Jules Ferry, 1881, qui va mettre en place l'école publique, laïque et obligatoire. 1881, un siècle après la révolution de 1789. Ce combat pour l'émancipation des travailleurs qui passe par l'école, ça va aller au niveau de l'école pour les enfants. Le droit à l'éducation pour les adultes, ça viendra que bien plus tard. C'est la loi de 1961, deuxième moitié du XXe siècle, le congé cadre jeunesse, qui donne le droit pour les jeunes de pouvoir quitter leur entreprise pour aller se former, sans être payés bien sûr, mais ils ont le droit de quitter leur entreprise pour aller se former 5 jours dans l'année. 1961. Le congé éducation ouvrière, c'est-à-dire le droit pour les syndicalistes d'aller se former, le droit pour se former sur le contenu qu'on veut, il faudra attendre 1957 avec le congé éducation ouvrière. Et le droit pour les travailleurs à la formation, il faut attendre la loi de 1971. Vous voyez, comme ce combat pour l'instruction qui est à la base de toute émancipation, pour pouvoir avoir une raison autonome, pour avoir un esprit critique, il y a un minimum de formation à avoir. Il va falloir un siècle, plus d'un siècle pour que ça commence et un siècle et demi pour que ce soit un petit peu mis dans les faits. Et on est loin d'avoir une formation qui permette l'égalité entre les citoyens que souhaitait Condorcet. C'est même, on peut même dire qu'on est dans une période où c'est très remis en cause, puisque ça coûte de plus en plus cher de faire des études.
Alors Paul, vous avez employé le mot émancipation. Bon, il y a quand même une ambivalence hein, dans tout, quand on parle d'avancement du droit à l'instruction, parce que par exemple quand Jules Ferry en 80 fait passer les lois sur le droit à l'école pour tous, c'est aussi parce que à ce moment-là en France il y a un besoin d'une main d'œuvre plus qualifiée.
Effectivement, ça va être la grande ambivalence de la bourgeoisie par rapport à l'école pour faire en sorte d'avoir des ouvriers qualifiés et des ouvriers donc qui auront une meilleure rentabilité dans le travail, on est obligé de les former. Et en même temps, plus on les forme, plus on leur donne les moyens de s'organiser et de défendre leurs intérêts. Et ça, c'est un petit peu la contradiction de la bourgeoisie qui est obligée de former son monde et en même temps qui craint cette formation du peuple. Rappelez-vous de la phrase de Guizot, qu'il y avait danger de former le peuple. Et on va retrouver ça au moment des lois de Jules Ferry en 1881, où à la fois il y a la revendication des mouvements d'éducation populaire d'instruction obligatoire, et tout le travail qu'a fait le courant laïque pour ça, et en même temps le besoin de la bourgeoisie d'avoir un peuple qui sache à peu près qui soit en capacité de travailler. La loi de 1971, Jacques Delors, à ce moment-là, repose sur la même ambivalence. À la fois, on a le mouvement ouvrier et les mouvements d'éducation populaire qui font pression pour que la formation puisse s'exercer, avoir lieu tout le long de sa vie, et en même temps, on est à un moment où, avec le développement des techniques, la bourgeoisie et le patronat a besoin d'ouvriers qui sachent se reconvertir, qui sachent acquérir de nouvelles techniques. Ils ne peuvent plus se contenter des techniques qu'ils ont acquises à l'école avec l'évolution des techniques. Et la loi de 1971 arrive à un moment où il y a cohérence des intérêts des deux courants. En sachant que les deux ont intérêt à cette formation, mais il est bien évident que les finalités de ces formations, et donc les pédagogies à mettre en œuvre et le type de formation, ne sont pas les mêmes. Parce qu'on ne cherche pas, dans un cas, il s'agit de former un producteur en capacité de s'adapter aux besoins de la production, dans l'autre cas, il s'agit de former un individu, un homme, un citoyen. Les finalités ne sont pas les mêmes.
Paul, merci. On se retrouve la semaine prochaine donc de Info30. On peut peut-être déjà annoncer un petit peu le programme la prochaine série de séquences pour comprendre et débattre.
Alors, maintenant qu'on arrive dans cette époque où l'éducation populaire existe réellement, on va essayer de regarder les courants qui l'ont traversée à travers l'histoire.